Vous écoutez France Culture.
Bonsoir Aude, bonsoir à tous.
Are you racing or watching? Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, littérature. Ce soir, Nathalie Chrome de Télérama, Étienne de Montetti du Figaro se font face. Nous allons nous disputer ensemble autour de deux livres, La fête de l'insignifiance de Milan Kundera et Tempête de Jean-Marie Gustave Leclésio. Dans une vingtaine de minutes, nous retrouverons Antoine Guillaume pour sa revue de presse culturelle quotidienne. Je passerai un coup de fil à l'écrivain Mathias Hénard pour parler avec lui du 27e Festival de littérature et de journalisme à Metz. Le jeu de la dispute vous permettra ce soir de gagner des entrées pour le film Métabolisme ou Quand le soir tombe sur Bucarest de Corneliu Porumboiu au cinéma le 16 avril. Enfin, nous avons également rendez-vous avec l'invité de la dispute, le comédien Patrick Chesnay. Ouvrons cette dispute avec un nouveau roman de Milan Kundera, ce qui est déjà en soi une surprise. 11 années ont passé depuis son roman précédent, L'ignorance. Surprise aussi, l'édition de Kundera en Pléiade, sous l'intitulé « Œuvre au singulier », pouvait laisser croire que cette œuvre était achevée. Il n'en était rien, heureusement. Kundera revient pour cette fête de l'insignifiance, publiée tout d'abord en Italie, sans doute par une facétie de l'auteur. Faire un résumé du livre serait non facétieux, mais presque fastidieux. On va parler des différentes situations qui s'y déroulent. Disons simplement qu'il s'ouvre sur une interrogation sociétale, disons. Comment définir l'érotisme d'un homme ou d'une époque qui voit la séduction féminine concentrée au milieu du corps, dans le nombril, et que ce livre nous fera comprendre son titre dans les toutes dernières pages, lorsque Ramon, l'un des personnages principaux du livre, dira à Dardello « L'insignifiance, mon ami, c'est l'essence de l'existence. » Commence avec vous, Nathalie Chrome, sur ce nouveau court roman de Milan Kundera, La fête de l'insignifiance, publié chez Gallimard.
Je trouve ce qui est assez frappant à propos des deux livres dont on va parler, le Kundera et le Clésio, c'est à quel point on est à vraiment des œuvres littéraires aux antipodes et qui sont à la fois aussi pour moi des sommets quoi. Et Kundera, effectivement,
on va pas être d'accord, mais c'est pas grave.
Kundera, voilà, on est vraiment dans une fiction extrêmement élaborée, extrêmement ironique. Pas une fiction abstraite, mais en tout cas pas quelque chose qui relève du roman réaliste, ni de la démonstration. C'est vrai que résumer ce livre, c'est quasiment impossible. on n'y comprendrait rien, on le desservirait.
Autant le lire.
Autant le lire, voilà. Mais en plus, effectivement, il est très bref. C'est vrai que les livres de Kundera sont un peu comme, pour moi, des installations d'œuvres d'art contemporain. Ce sont des livres qui trouvent beaucoup plus même d'intérêt et qu'on comprend mieux quand on connaît aussi l'œuvre d'essayiste de Kundera, qu'il considère vraiment comme partie intégrante de son œuvre, hein, pas comme une, je sais pas, un prolongement de ses romans. C'est vraiment, tout ça est très imbriqué. Et c'est vrai que les livres de Kundera sont plutôt des méditations que des démonstrations. Et celle-ci, donc, c'est une méditation très, très joyeuse, très ironique sur le sens de la vie, on pourrait presque dire, hein, sur la façon dont l'individu est au monde et sur, comme vous le disiez, cette insignifiance qui serait peut-être le fond du monde qui nous entoure et de l'expérience humaine en ce monde. Alors, tout ça est fait avec beaucoup de légèreté, beaucoup, on dira de bonne humeur, beaucoup peut-être aussi un peu de cynisme, mais une forme de désenchantement absolu. Enfin, ce n'est pas qu'un livre drôle, c'est aussi un livre extrêmement tragique si on veut le lire d'une certaine manière. Et c'est un livre extrêmement, je trouve, construit, abouti, extrêmement juvénile quand même, quelque chose de très juvénile. Voilà, j'ai pas du tout raconté l'histoire.
Non, mais c'est bien, mais vous avez donné un truc.
Je vais laisser Étienne le faire.
Un peu, ou pas, ça dépend, s'il a envie, Étienne de Montetier.
Oui, ben effectivement, les amateurs de romans narratifs, avec un début, un commencement, une fin, en seraient un petit peu pour leurs frais. Non, ça se passe au jardin du Luxembourg, des êtres se rencontrent. Il y en a un qui sort de chez le médecin et il se réjouit parce qu'il est sain et sauf et il ne peut pas s'empêcher quand même d'annoncer à un de ses amis qu'il laisse entendre qu'il est peut-être malade. Les choses se nouent comme ça, de manière un peu fortuite, un peu absurde. Ce n'est pas très différent du Kundera d'il y a 40 ans, dans le livre du rire, de l'oubli, comme ça, des va-et-vient, entre des situations qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Tout d'un coup, un personnage part dans une grande discussion sur ce qu'était Staline avec ses proches. Il leur raconte une histoire supposément drôle et absurde, l'histoire des perdrix que Staline se serait vanté d'avoir tué en deux fois, c'est-à-dire il a tué 20 perdrix, je crois, puis il est rentré chez lui pour rechercher des cartouches, puis il est revenu, et les deux perdrix, évidemment, avaient attendu le petit peur des peuples, et il a tué les dernières perdrix. Question, évidemment, que Milan Kundera pose, est-ce que c'est une plaisanterie de Staline qui se moque de ses camarades, est-ce que c'est la folie d'un monde où l'humour n'ayant plus place, plus personne ne se rend compte que c'est une plaisanterie absurde. Bon, ça c'est toutes les questions de Kundera depuis le début de son œuvre par rapport au totalitarisme dans lequel il a vécu et souffert. Ce qui m'a frappé, c'est un livre, vous l'avez dit Nathalie Cromin, assez désenchanté, ne serait-ce parce que les personnages sont âgés et qu'il y a quelque chose qui est quand même un peu le bilan d'une vie. Le bilan d'une existence, la relation avec sa mère pour l'un d'eux, la relation amoureuse, et qu'il y a quelque chose d'assez triste. C'est vrai qu'il y a cette réflexion assez drôle, qui est d'ailleurs un peu le fil conducteur du livre sur le nombril, et Kundera, une réflexion sur l'identité des hommes, l'identité des femmes, et peut-on reconnaître un être au nombril qui est l'objet, je dirais, l'élément peut-être le plus anodin du corps humain, et qui est une sorte de symbole de l'insignifiance, peut-être dit-il aussi de la fin de l'individualité, des particularismes humains, ça veut dire que dans les rapports humains, ce point est très très important. C'est un conte moral, qui est effectivement assez grinçant et assez triste sur la condition humaine.
Ouais, c'est vrai que même Ramon, là, que je citais tout à l'heure, dit à un moment donné, mon cher ami, une seule chose me manque, la bonne humeur. Et c'est vrai qu'on peut dire qu'elle ne manque pas à Milan Kundera, mais c'est effectivement une sorte de pessimisme gay quoi, qui est à l'œuvre dans ce livre-là, parce que les portraits de ces hommes, dans une grande lassitude, quoi, chacun de leur existence, Donc, ce sont des portraits quand même assez durs et sans grande concession. Mais il y a toujours effectivement une forme d'humour, une forme d'ironie qui fait que voilà, on lit ce livre, non, on ne sort pas de ce livre dans un désespoir absolu, mais voilà, dans un mélange en tout cas, comme Kundera sait parfois effectivement les faire. Mais sur la question du nombril aussi, ça pourrait être une question légère, sauf que non, parce que d'une part, il y a effectivement cette idée que si on s'intéresse au nombril, c'est que donc finalement, il y a l'identité quand même un peu. N'est plus la chose la plus importante, et que nous sommes nous avons tous le même nombril, donc nous sommes tous indifférenciés. Mais ça renvoie surtout à une scène primitive fondamentale pour l'un des personnages qu'on ne dévoilera pas ici à ce micro pour que nos auditeurs puissent le lire. Mais il y a quand même pas pour rien qu'il y a une fixation sur le nombril, et ça renvoie à quelque chose d'évidemment très douloureux dans la vie d'un des personnages. Et puis effectivement, il y a Staline et les 24 perdrix, il y a Kalinine et cette histoire magnifique autour de lui, il y a le jardin Luxembourg, il y a la statue des reines, enfin il y a tous ces il y a un petit monde, donc c'est pour ça que c'est difficile de, ça se réduit pas à une description, mais vraiment on peut parler nos états de lecteur face à un livre comme celui-ci. Nathalie Chrome.
Oui, sur le nombril, il le dit. Un personnage, Alain, dit aussi une chose est évidente, contrairement aux cuisses, aux fesses, aux seins, le nombril ne dit rien de la femme qui le porte. Et effectivement, c'est ce lieu qui aujourd'hui, enfin ce lieu du corps humain, qui serait devenu le lieu de l'érotisme et du fantasme masculin. Et je pense qu'il ne s'agit pas pour Kundera de parler. Des hommes et des femmes, mais vraiment voilà, d'une expérience humaine. C'est vrai que s'il n'y avait pas cette bonne humeur, je ne dirais pas volontariste, parce qu'il y a vraiment, je trouve qu'il y a, justement, il n'y a rien de volontariste dans ce livre, et qu'il coule vraiment, il sautille, enfin, il a un vrai mouvement, un vrai mouvement, une sorte d'allégresse, comme ça, au-delà du tragique. Oui, c'est quand même le pari de la bonne humeur, ou plus la bonne humeur qui serait pas quelque chose d'un peu niais comme ça. C'est vraiment aussi le refus de l'esprit de sérieux. C'est ça aussi la bonne humeur, et comme si c'était un peu la seule attitude possible, dit Kundera, la seule attitude réaliste et sérieuse et possible face à l'existence et face au non-sens. Et dans ce non-sens, effectivement, il y a à la fois la vie des hommes aujourd'hui, il arrive à englober l'histoire, il arrive à mettre aussi les rapports hommes-femmes. Enfin, il arrive au moyen de toutes ces petites scènes qui s'enchaînent très bien, mais qu'on a du mal à lier en un récit, il arrive à englober tout un tas de sujets et de motifs dans l'espace d'une centaine de pages, quoi.
Étienne, comment t'étais ?
C'est peut-être l'image du jardin Luxembourg qui m'inspire un peu cette idée. On a l'impression que le lecteur est assis sur un banc, et puis il est entouré de groupes de gens qui parlent. Ce sont tous les chapitres du livre où des personnages sont là et parlent. Le lecteur va les entendre de manière un petit peu voilée et surtout de manière fragmentaire. Il ne sait pas tout de l'histoire, et c'est peut-être en tendant l'oreille, en discutant, en écoutant l'un ou l'autre, ce cocktail qui a été monté par Dardello, un des personnages, et c'est là où il a confié de ses amis Ramon et Caliban à faire le service. Et dans un cocktail aussi, on entend des bribes de conversation. Et ce côté fragmentaire donne beaucoup de charme, mais aussi beaucoup de mystère au livre. On ne comprend pas tout. Kundera nous donne des clés, mais pas seulement. Il délivre des jugements, mais pas toujours. Il y a un chapitre incroyable et assez sévère, d'ailleurs, sur ce qu'il appelle les excusards. Un personnage, finalement.
Quand deux personnes se croisent dans la rue et se donnent un coup d'épaule involontaire,
s'excuse.
Il y en a un qui s'excuse et l'autre qui engueule, alors qu'ils ont la même responsabilité.
Voilà, et puis Kundera dit, mais qu'est-ce que c'est que cette mode contemporaine de s'excuser à tout bout de champ ? Si on s'excuse, c'est qu'on est coupable. Et donc, pour Kundera, il y a une sorte de faiblesse, d'aveu.
De malédiction, même.
Oui, hein, de malédiction, presque. Et de se penser tout le temps coupable de quelque chose. Mais là, on se demande aussi pourquoi ça survient. Il y a une scène où aussi intervient une domestique portugaise qui est un peu fugitive. Bref, on ne comprend pas toutes les scènes. Pourtant, il y a une formidable unité quand même. Les choses se rapprochent. On a parlé du nombril. Il y a un moment donné, il y a aussi la métaphore de l'ange, qui par définition n'a pas de nombril. Renvoie aussi à certains statuts de l'existence humaine. Sous des airs extrêmement éparpillés, c'est un livre incroyablement tissé.
Mais une unité qui n'est pas sans rapport aussi avec une forme de cinéma. Moi, je pensais plutôt à un cinéma français des années 60, qui n'est pas celui de la Nouvelle Vague, mais qui serait plutôt celui des Rapneaux, de Broca, voire Michel Deville, de ces époques-là, comme ça, à la fois une certaine, ou certains Chabrol aussi, une certaine légèreté, ironie, regard un peu acide sur la vie. On est quand même dans une ambiance, c'est peut-être le jardin Luxembourg aussi qui m'a fait penser à ça. Je vois bien cet esprit comme ça, à la fois très alerte et en même temps, assez, pas désespéré, mais enfin, qui porte un regard sur la vie assez lourd finalement.
Oui, donc Deville, je trouvais que c'était assez pertinent quand vous l'avez dit, parce qu'effectivement, comme dans le cinéma de Deville, il y a comme ça, comme un secret. On a l'impression que tout ça, toutes ces scènes, tous ces personnages, tous ces fragments de conversation. Nous permettent de cerner, d'approcher d'un secret qu'on n'arrive pas à capter, à comprendre, à révéler, enfin à décrypter, mais il y a un secret autour duquel tournent toutes ces histoires, vers lequel elles nous guident en fait. Et c'est vrai que dans cette scène de où intervient cette domestique portugaise, il y a aussi un des personnages qui a décidé, pour pas s'ennuyer, tout ça, donc il est serveur comme ça occasionnellement dans des soirées et serveur maître d'hôtel, et il parle, il décide de parler, il a décrété qu'il se présenterait comme pakistanais, et il parle une espèce de langue qu'il a inventée, un sabir, voilà. Et finalement, on n'a pas l'impression qu'il a beaucoup plus de mal à communiquer avec les autres en parlant ce sabir-là, que d'ailleurs, il communique très bien avec cette jeune femme portugaise. Oui, il se lie autant aux autres avec ce sabir qui croyait l'éloigner que s'il parlait la même langue que les autres, quoi. Donc il y a aussi quelque chose sur le langage et sur la communication qu'il permet. Non, je pense qu'il y a énormément de choses dans ce livre.
À nous écouter tous trois sur un livre aussi court, il y en a des choses, effectivement.
Oui. Hein. Et encore tant d'autres.
Puis quand on le... il supporte tout à fait, il incite même à la relecture, je trouve. Parce que je pense que... Enfin, moi, je l'ai lu que deux fois, par exemple. C'est facile à lire, hein, c'est rapide, ça prend une heure.
Très vite,
Mais c'est vrai que je pense qu'à chaque lecture, on voit des choses nouvelles. Et sans doute, à chaque lecture aussi, il y a des questions nouvelles qui se posent. Moi, c'est vrai que j'ai Staline, les perdries, Kalinine et tout ça. Je suis toujours un peu dans le...
Et les pissotières du Politburo.
Du Kremlin. C'est vrai que je suis encore un peu flottante sur l'installation.
Et Kant,
la
ville de Kant. Est né et mort à Kaliningrad, qui s'appelait Königsberg, je pense. Kaliningrad, Königsberg.
Voilà.
Bon. Et cette espèce de tendresse de Staline pour ce personnage assez falot, enfin... Oui, tout ça est très mystérieux quand même.
Parce qu'on voit aussi Khrouchtchev, on voit Brejnev, il y a tout un monde dans ce court livre.
Et on voit aussi un chasseur qui, au jardin de Luxembourg, traque
les importants qui font pipi sur les statues des reines de France. Bon, les auditeurs vont se demander si on a pris quelque chose avant de commencer l'émission, parce que oui, il y a tout ça dans les 130 pages, écrit gros, grosse police de caractère. Donc oui, il y a tout ça, et sans doute, comme le disait Étienne de Montetier à l'instant, plus encore dans ce livre de Milan Kundera, La fête de l'insignifiance, publié donc aux éditions Gallimard. Dans une quinzaine de minutes, une autre dispute qui portera sur un autre livre Gallimard, le nouveau livre de Jean-Marie Gustave Clésio, Tempête. De l'insignifiance, jamais, des tempêtes, souvent, il y en a dans les revues de presse culturelles quotidiennes d'Antoine Guillot. Bonsoir, cher Antoine.
Bonsoir, Arnaud Laporte. Bonsoir à toutes et à tous. Manuel Valls n'a pas eu de mots assez vibrants pour chanter mardi devant l'Assemblée la grandeur de la France, celle de Valmy, celle de 1848, de Jaurès, de Clémenceau, de De Gaulle, la grandeur du maquis. C'est pourquoi j'ai voulu devenir français, rappeler l'ex-catalan, naturalisé français à 20 ans. La France, c'est aussi celle de Sade et un qui est redevenu français. C'est le manuscrit des 120 journées de Sodome. Je l'avais annoncé la semaine dernière. avec mes trois frères. Nous nous félicitons de ce retour en France, s'enthousiasme Hugues de Sade dans le Figaro. Notre aïeul avait perdu son manuscrit, il en était resté inconsolable. Avant sa mort, il disait encore le pleurer avec des larmes de sang. Aujourd'hui, c'est un peu comme s'il le retrouvait. Tout le monde va enfin pouvoir le voir. Le quotidien La Devise de Beaumarchais a raconté l'histoire rocambolesque de ce manuscrit. L'achat, puis l'exposition du document prévu en septembre au Musée des Lettres et Manuscrits de Paris et l'épilogue d'une exceptionnelle aventure, écrit ainsi Éric Bietri-Rivière, celle d'un texte parmi les plus sidérants, sous-titré L'école du libertinage, sorte d'encyclopédie des 600 passions les plus criminelles, considérée par Maurice Hein, le premier éditeur en 1931, comme l'effort exemplaire vers la plus féroce analyse de l'être, et par son auteur comme le récit le plus impur qui ait jamais été fait depuis que le monde existe. Les 120 journées de Sodome ont été écrites à la prison de la Bastille en 1785. Afin d'éviter la saisie, Sade recopie son texte sur les deux faces d'un rouleau de papier mince. Très peu de ratures, témoigne une conservatrice, un papier couronne de 12,10 cm de long sur 12 cm de large, un assemblage de 33 lais, sans doute fourni par Madame de Sade. Ces feuilles ont été collées avant l'écriture recto verso, peut-être avec de l'urine. Il protège le tout par un étui de cuir et le cache dans un interstice de la muraille de sa cellule. L'étui d'origine est perdu, d'où la légende d'un Sade cachant son manuscrit dans son fondement. Quand il est transféré à l'hospice de Charenton pour avoir harangué les émeutiers de 1789, il ne peut rien emmener. Lors de la démolition de la forteresse, le rouleau est trouvé et acquis par une famille de la noblesse qui le conserve pendant trois générations. À la fin du 19e siècle, un psychiatre allemand l'achète et publie sous pseudonyme une première version comportant de nombreuses erreurs de transcription. L'écriture est en effet microscopique. En 1929, Charles et Marie-Laure de Noailles, descendantes de Sade par sa mère, rachètent le rouleau et avec Maurice Heine en tirent une misonnette à l'attention de quelques lettrés passionnés. En 1982, leur fille Nathalie confie à nouveau le document à un éditeur qui souhaite l'étudier, mais quelques mois plus tard, il rend l'étui vide. Le manuscrit a été vendu pour 300 000 francs à Gérard Norman, collectionneur suisse de livres érotiques, aux héritiers duquel la société bibliophilique Aristophile, présidée par Gérard l'héritier, l'a racheté pour 7 millions d'euros, mettant ainsi fin à plus de 30 ans de querelles juridiques. Pour revenir au discours enflammé de notre nouveau Premier ministre, la France fait-elle encore rêver? C'est la question que pose le numéro 1 du 1, le tout aussi nouvel hebdomadaire lancé par l'ancien directeur du Monde Éric Fotorino, non pas un rouleau collé à l'urine, mais une grande page pliée trois fois avec un seul sujet décliné par des penseurs, des artistes et des écrivains, dont cette semaine Costa Gavras, Angelin Preljocage, Andrei Makine, Tahar Ben Jelloun, Tsvetan Todorov ou encore notre gloire nationale et sujet de la dispute de ce soir, le dernier prix Nobel de littérature dont peut s'enorgueillir notre glorieuse nation, l'écrivain français d'origine mauricienne, J.M.G. Le Clésio, dont les mots résonneront sans doute, s'il les lit, aux oreilles de l'ancien ministre de l'Intérieur en charge à l'époque de l'immigration. « Je songe à un pays, écrit Le Clésio, mon pays, puisque j'y suis né et que j'ai sucé le lait de sa langue, qui cesserait de se bercer dans son sommeil hypnotique avec les airs mélancoliques du passé. Le paysage culturel est en train de changer, mais la France reste un club fermé. Il faut admettre qu'elle n'est plus seulement le pays de Voltaire et de Condorcet, de Michelet et de Lamartine, c'est aussi le pays d'Aimé Césaire et d'Édouard Glissant, le pays de Boualem Sansal et de Lahabi, par la langue le pays d'Yambo Wologem, d'Abdourahman Vaberi. La langue française est un être vivant qui change et se modifie sans cesse. Elle n'existe que par ses adaptations, ses rencontres, ses inventions. Sa force n'est pas dans on ne sait quel rayonnement, elle est dans ce changement. La reconnaissance des torts causés aux minorités, en vérité majoritaires dans tous les lieux névralgiques de notre pays, n'est pas un fantasme caritatif ni une expiation. Ce serait la seule chance pour cette culture ancienne, largement métissée, de continuer son aventure dans la complexité du monde. Nous y sommes, c'est le point de non-retour. Ou bien l'on ouvre les ghettos et l'on partage le bonheur de la mixité, ou l'on se dessèche sur les ruines archéologiques d'une histoire devenue imaginaire. Je suis un binational franco-mauricien qui vit une partie de son temps comme un émigré, témoigne depuis Albuquerque J.M.G. Le Clésio, qui conclut « Pourquoi mes rêves ne seraient-ils pas vos rêves ?» On transmet la question à notre collègue de France Culture, Alain Finkielkraut, élu hier au fauteuil 21 de l'Académie française.
Merci Antoine Guillot. Peut-être quelques commentaires si on remonte un peu le fil. Alors oui, élection, bien sûr, suivie de près par le Figaro, cette élection de notre collègue. Ce n'est pas notre premier collègue à se présenter. Mais enfin, récemment, c'est un des seuls qui a été élu, donc notre collègue de France Culture.
Non, le Clésio, tout ce qu'il dit est sympathique, mais au fond assez banal. Pardon, hein, d'attaquer comme ça directement après une littérature. Enfin, toute cette réflexion sur l'ouverture, ouais. Sur la langue française, etc., c'est assez convenu. C'est assez convenu et bon, ça passe un petit peu vite sur toutes les difficultés voilà, politiques, sociales, etc., rencontrées par le pays.
Mais c'est un discours de politique générale, vous voulez dire ?
Assez largement et sur ce que la langue française serait servi et illustré par des hommes et des femmes qui vivent et qui ont grandi hors de nos frontières. Je pense que ça a maintenant 30 ou 40 ans, ouais. Cette affaire-là. Oui, il a cité Césaire parmi les plus anciens, mais enfin, par dizaines, de Milan Kundera, effectivement, jusqu'à Raphaël Confiant. Voilà, la langue est hors les murs, donc c'est dit avec beaucoup de solennité et de gravité. Ça reste quand même assez banal.
Nathalie Chrome.
Je suis assez d'accord, c'est vrai que... Non mais je trouve que peut-être que c'est pas inutile de le redire, ouais. Et peut-être qu'effectivement la question de la langue peut être, enfin, devenir comme ça le vecteur d'une réflexion plus politique justement, plus sociale. C'est vrai qu'après, que la langue française se nourrisse de effectivement d'écrivains d'écrits venus de la francophonie, c'est le fait est, et oui. C'est très bien et on a tout à fait le droit d'aimer Saint-Simon et Césaire, quoi.
Voilà. Je veux dire, et la France fait
donc
partie.
Effectivement, c'est pas voilà, c'est un peu une déclaration un peu solennelle qui n'apporte peut-être pas grand-chose.
Étienne Montetti.
Mais pour boucler la boucle de la revue de presse d'Antoine Guillot, vous vous souvenez que le débat qui a eu lieu à la télévision il y a quelques mois entre Finkielkraut et Emmanuel Valls portait sur la langue française, notamment le fait que la langue française était en train de devenir, et peut-être même officiellement, une langue du territoire de France au milieu de tant d'autres. Et Finkielkraut disait, non, point commun entre nous tous, quelles que soient nos origines, notre vie, etc., c'est la langue française. Et ça, c'est un assez joli combat, je trouve, se défendre la langue française, que le Clésio n'a absolument pas pris en compte dans sa réflexion. C'est quid de langue française, notamment en France.
Nathalie ?
Non, mais ce qui, du coup, paraît justifier pleinement l'entrée d'Alain Finkielkraut à l'Académie française, dont je ne comprends pas pourquoi elle a suscité, avant le vote... une sorte de polémique dont je n'ai pas réussi d'ailleurs à trouver l'origine. Enfin, j'ai pas réussi à trouver cité dans la presse. J'ai pas fait d'enquête. Hein, cité dans la presse qui étaient les membres du lobby anti-Finkielkraut. Enfin, j'ai lu notamment pas mal d'articles dans le Figaro. Hein, et je ne doute pas qu'il y ait quelque chose. Mais c'est vrai que je m'interroge quand même sur. Je trouve que c'était beaucoup plus scandaleux la non-entrée d'Antoine Compagnon il y a quelques mois,
oui,
que l'entrée de Finkielkraut aujourd'hui à l'Académie française.
La non-entrée d'Antoine Compagnon, je suis d'accord avec vous. Là.
Donc, et ça aurait dû effectivement susciter plus de réactions, alors que l'arrivée d'Alain Finkielkraut à l'Académie, voilà, c'est très bien.
Étienne Montetti, là-dessus, alors, véritablement.
Oui, le problème, à mon avis, avec l'Académie, c'est que il y avait des adversaires à son élection, mais ce qui est normal. Après tout, tous les candidats ont leur soutien et puis leurs détracteurs. Là, le problème, c'est que c'est des gens disqualifiés sa présence, notamment par des phrases assez odieuses du genre « c'est le Front National qui va rentrer à l'Institut
». Qui est-ce qui a dit ça, en fait
C'est des gens qui parlent...
Ce ne sont pas des gens qui le disent publiquement.
Publiquement,
voilà. C'est le courage
de l'adolescent.
Mais il y a eu un clan très résolu qui était très, très... très remonté contre Alain Finkielkraut,
très masqué,
et prenant, voilà, et caricaturant ses propos, les répétant à l'envi, etc., pour en faire un personnage diabolique. Et c'est ça qui a suscité l'agacement, parce que des débats, il y en a toujours eu. Et il y en a eu sur Antoine Compagnon, effectivement.
Mais c'est normal qu'il y ait des pour et des contre. Hein,
et l'Académie, je crois, a dit ben, Compagnon a encore quelques belles années devant lui, et il reviendra.
Il postule avant la limite d'âge.
Il reviendra avant qu'il ait 75 ans, donc il lui reste quand même encore quelques années devant lui. En revanche, pour Finkielkraut, on avait le sentiment, à cause de cette espèce de crispation autour de son nom, que c'était une élection à un coup, si j'ose dire.
Enfin, une crispation qui n'est pas née de rien. Voilà, c'est vrai qu'il y a des propos qui ont suscité et qui continueront d'ailleurs à susciter des polémiques. Et c'est naturel parce que ce sont des propos très tranchés.
Non, mais reste qu'effectivement, cette opposition est quand même très masquée parce que qui ne suis pas une familière de l'Académie de ces couloirs, je ne sais pas de qui il s'agit.
Oui, c'est toujours un peu embêtant ce genre d'histoire, effectivement.
Oui, mais je crois qu'à l'Académie, il est très mal vu, voire même peut-être sanctionné, les prises de position publiques en faveur et à plus forte raison
contre
un candidat. En réalité, les choses doivent se faire de manière assez feutrée, comme c'est l'habitude dans ce genre d'endroit.
Tout le monde.
Ça n'a pas empêché Pierre Nora ou Jean d'Ormesson de prendre...
Oui, mais je crois que
les
opposants à Finkielkraut s'en sont prévalus, ont même essayé, je crois, de disqualifier l'élection en disant que des prises de position favorables avaient été prononcées et que c'était interdit. Je ne connais pas le règlement par cœur, mais je sais qu'il y a eu des points de droit qui ont été soulevés.
Ça reste amusant que... Parce que l'enjeu, quand même, on peut se poser la question de l'enjeu de tout ça. C'est vrai que ça reste amusant que ça puisse susciter autant de polémiques, une entrée à l'Académie française, quoi.
Antoine Guillot, vous voulez commenter sa revue de presse ?
Non, sans faire de prévision, il est probable qu'on en reparle vendredi prochain.
C'est oui,
certainement que des articles vont commenter cette élection.
Et peut-être que Madame la secrétaire perpétuelle nous donnera les points effectivement de règlement qui nous indiqueront et qui répondront à certaines des questions, mais qui ne donneront pas effectivement le nom des gens qui avancent masqués. Nathalie Grom, puisqu'ils avancent masqués, c'est pour ça, pour pas qu'on les reconnaisse. Avant la deuxième grande dispute qui portera effectivement sur un livre de Jean-Marie Gussable-Clézio, on retrouve l'invité de la dispute cette semaine, Patrick Chesnais.
Enchanteur, comment allez-vous ? Très bien, merci. Et vous ?
Patrick Chesnais, dernier rendez-vous de cette semaine ensemble pour parler de littérature, de livres. Alors évidemment, un comédien s'intéresse forcément au texte, un scénariste. Alors, l'écriture d'un scénario, c'est une chose particulière, mais enfin, c'est quand même aussi une écriture, même si elle a une visée de film. Voilà, qu'est-ce qu'il y a dans la bibliothèque de Patrick Chesnais ? Quels sont les piliers de cette bibliothèque ?
C'est un peu comme la musique dont on parlait hier, c'est-à-dire, il y a tout, quoi. Il y a tout et son contraire. Il y a des polars gore jusque... en passant par Proust. Je suis assez sensible à la littérature française contemporaine. J'en lis quand même quelques-uns régulièrement. J'aime beaucoup Christian Auster, moi.
Ah oui.
J'ai adapté un de ses romans, c'est un truc tout seul, un personnage tout seul, qui est Le Grand Appartement, et que je vais jouer sur scène, et que je vais reprendre là. Donc Christian Auster, que j'ai lu à peu près tous les livres, j'ai très sensible à son univers, à tel point que j'avais fait une lecture en public à un moment d'un de ses bouquins. Ça m'a vraiment bien parlé. Donc j'ai voulu en faire un spectacle, et voilà. Donc Christian Auster, j'avais aussi, alors pour ce qu'on parlait, je crois qu'il s'appelait Christian aussi, Gailly.
Gailly, oui, qui est mort il y a peu de temps.
Oui,
maintenant.
Exactement.
Ouais. Un grand amateur de jazz.
Bah voilà, j'avais commencé à adapter d'ailleurs pour le cinéma, ça me plaisait bien, Un soir au club.
Ah oui.
C'était l'histoire d'un ex-jazzman qui avait lâché l'affaire parce que c'était trop compliqué, et puis il était trop... Il picolait un peu, et il avait décidé de passer à autre chose, et puis qui replongeait, je ne vais pas raconter en détail, et ça m'avait énormément plu, le style, le personnage, tout ça. Et quand j'ai demandé, les droits devaient être libres en janvier, je me suis réveillé en mars, j'avais commencé à adapter, on m'a dit que les droits étaient pris, le film a été fait, et voilà.
Il est passé inaperçu. Ah oui,
totalement
de moi,
inaperçu,
en tout cas,
mais on peut comprendre pourquoi.
D'accord, si vous le dites. Vous évoquiez, je crois que c'était dans l'émission lundi soir, Don Quichotte et votre envie de pouvoir jouer ce personnage. Ça veut dire que c'est un livre qui est un pilier de la bibliothèque de Patrick Chesnais.
Oui, c'est pas de la tarte à lire. Hein.
Ah ben non, c'est
pour
ça, oui.
C'est pas de la tarte. Non, alors, si vous voulez, moi j'ai lu aussi, parce que j'ai déjà joué Don Quichotte pour la télévision. Et c'était une adaptation remarquable, c'est celle qu'on avait prise pour Arte, pour faire la télévision. J'ai lu aussi les adaptations qu'on a faites au départ, par paresse.
Oui, parce que c'est monstrueux.
C'est monstrueux.
Le Quichotte,
c'est
vrai.
Un livre monstre. Ouais. Un livre monstre, comme son personnage. C'est un personnage monstrueux. Voilà, mais moi j'aime bien les monstres. C'est pour ça que je suis sensible aux acteurs. Les acteurs sont des monstres, quelque part, comme on disait dans les années 70.
On peut le dire encore aujourd'hui, Patrick Chesnais. Mais alors, vous avez cité Christian Gailly, vous avez cité Christian Auster, les contemporains français. Vous citiez je crois, Proust aussi, Cervantes.
Oui, Proust, écoutez, alors Proust, en fait, c'est ma femme qui l'a lu. Moi, j'en ai lu qu'un, c'est quand il cherche sa femme toute la nuit dans Paris, là, du côté de chez Swann.
Oui.
Oui, c'est ça. Voilà.
Pour finir, Patrick Chesnais, l'écriture romanesque, c'est quelque chose qui vous travaille ? Vous ?
Non, non, c'est trop compliqué. C'est... Non, non, là, vous parlez tout à l'heure, le scénario, c'est quelque chose qui se confectionne. On n'est pas dans la littérature.
Oui.
Hein. C'est quelque chose qui se fabrique.
Utilitaire, enfin,
oui,
presque.
Oui,
hein.
C'est quelque chose... ah, bah, il peut y avoir de la création, de
oui,
la créativité.
Oui, bien sûr.
Ah, il y a un style, une pensée, un regard. Mais on n'est pas dans la littérature. Non, c'est très différent. Hein. C'est beaucoup plus compliqué, la littérature. Faut être un littérateur, ce que je ne suis pas. Je peux écrire des livres, j'ai écrit des nouvelles, j'écris mais comme ça. J'ai écrit un livre aussi plus personnel, plus intime, mais... et puis, puisqu'on parle de littérature, cet été, je vais jouer la correspondance de Dostoïevski à Avignon.
Ah oui ?
Sur le démon du jeu. C'est un montage qui a été fait par Virgile Nastase et... je crois que j'écorche son nom totalement. mais ça fait rien, il ne m'en voudra pas, j'ai du mal avec les noms.
Ouais.
Donc un montage qui a été fait sur toutes les correspondances de Dostoïevski où les questions du jeu, et c'était un carbonisé du jeu, il perdait évidemment tout le temps. Donc il empruntait, il écrivait, alors à l'époque c'est comme on tweet maintenant, il écrivait, en plus c'était Dostoïevski, c'est pas complètement inintéressant à lire, bien que ça soit le truc du quotidien, hommes, c'est un génie de la littérature qui a un style éblouissant quand il écrit, une force, et quand il écrit des lettres à sa fiancée pour dire qu'il a froid, ouais. c'est le quotidien, c'est toujours vachement intéressant, et puis il écrit à ses éditeurs, en leur disant, en leur demandant 300 roubles pour payer son hôtel ou son restaurant, sinon il va être en prison parce qu'il a tout perdu au jeu. Donc les éditeurs envoient 300 roubles, qu'il va évidemment immédiatement perdre au casino, et c'est un cercle sans fin. Ouais. Mais en contrepartie de ces 300 roubles, il leur dit, je vous écris si vous voulez... j'ai une idée comme ça, c'est l'histoire d'un type un peu simple. On pense qu'il est idiot. D'ailleurs, ça sera peut-être le titre du... Alors, je vous envoie 3 pages, mais envoyez-moi 300 roubles. Et on assiste à ça. Et c'est très impressionnant. À la fin ça a duré 11 ans, son enfer avec le jeu. Sa femme a compris qu'elle lui donne un peu d'argent et l'emmène dans des endroits où on joue, à Baden-Baden, parce qu'en Russie, il ne peut pas, ou ailleurs, et parce que où il joue... Il va perdre parce qu'elle sait que quand il perd, il touche le fond et quand il touche le fond, il écrit. Donc, elle va l'aider dans son œuvre en le faisant perdre. C'est assez fort. J'ai adoré jouer ça. J'ai joué aussi au Théâtre Héberto et je reprends à Avignon cet été. C'est très, très fort à jouer. Je joue Dostoïevski. Hein.
Carrément. Ouais. Ben voilà. Nouveau conseil pour finir cette semaine. On se retrouvera, j'espère bien, à Avignon. Et ailleurs, pour d'autres rendez-vous avec vous, Patrick Chesnais. Merci d'avoir passé cette semaine avec nous.
Merci à vous, c'était très agréable.
Merci. Et toute la semaine prochaine, l'invité de la dispute sera la comédienne, metteur en scène et réalisatrice Zabou Breitman. Nous poursuivons cette dispute avec un livre signé par un autre grand auteur, Gallimard, le prix Nobel de littérature Jean-Marie Gustave Le Clézio, qui revient avec 2 novellas, ainsi qu'il est indiqué sur la couverture du livre, intitulé Tempête. Pardon, c'est Nathalie Chrome qui me fait rire. Tempête, c'est le titre de la première novella, la seconde s'intitulant Une femme sans identité. Alors je lis la 4e de couverture pour une fois, d'autant qu'elle est signée JMGLC. En anglais, on appelle novella une longue nouvelle qui unit les lieux, l'action et le ton. Le modèle parfait serait Joseph Conrad. De ces 2 novellas, l'une se déroule sur l'île d'Udo, dans la mer du Japon, que les Coréens nomment la mer de l'Est, la seconde à Paris et dans quelques autres endroits. Elles sont contemporaines.
The trouble I've seen, nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen,
Glory, hallelujah. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh, yes, Lord. Sometimes I'm almost to the ground. Oh, yes, Lord.
On va commencer avec le point de vue, les premiers commentaires d'Étienne de Montetti sur cette tempête de l'Ecclésio.
Oui, c'est assez drôle que l'Ecclésio, dans son quatrième de couvre que vous venez de lire, insiste sur les détails de ces deux novellas, notamment les lieux, parce que c'est assez frappant de voir, notamment dans la première histoire, donc le début de son livre, à quel point il essaye de s'abstraire des détails du réel. Et ma première impression de lecture, c'était que le prix Nobel écrivait un peu de manière noble, qu'il essayait d'ériger son histoire au rang d'une fable universelle. Bien sûr, c'est l'île d'Udo dans la mer du Japon, mais c'est l'île avec un grand I. Les personnages ont des prénoms rares et assez peu caractéristiques. June, on ne sait pas très bien qui c'est. On a le sentiment que les êtres sont des êtres par excellence, un homme et une femme, c'est-à-dire toutes les hommes et toutes les femmes. Dans la deuxième, l'Afrique est là aussi comme un lieu un petit peu du retour à une certaine pureté originelle. Et j'avoue que j'ai eu du mal à rentrer dans ces histoires, notamment dans la première, à cause de ce côté un petit peu solennel, un petit peu empesé que l'Ecclésio avait pour nous raconter une histoire. Et puis j'ai eu l'impression qu'il se faisait déborder par la littérature, peut-être par son art, et qu'il n'arrivait pas complètement à maîtriser son récit, et que tout d'un coup, la vie s'en emparait. Que ces personnages prenaient vie véritablement, que les histoires échappaient au côté conte philosophique pour devenir des véritables histoires. Ce qui lui échappait aussi, c'était sa langue. Tout d'un coup, je vois un mot qui est embobiné. Je n'imaginais pas que c'était un mot du vocabulaire de l'Ecclésio. J'ai aperçu une onomatopée également, que je n'arrive pas à prononcer, mais quelque chose comme « hier ».
Pas mal.
Désembardé. Et finalement, voilà, l'Ecclésio était enfin en jambes. Il avait retiré son bel habit d'écrivain officiel du monde et il devenait un romancier qui se faisait promener par son histoire. Et la deuxième histoire, là, est beaucoup plus libre, libérée, une jeune femme délurée. le récit est vivant, incroyable. Et alors là, on n'en revient pas. Quand on lit « Nous avions l'air de Caïra », ou un peu plus tard, alors que dans la première novella... Dans la première novella, quand une fois on était chez Adam et Ève, et là, tout d'un coup, il y a une femme qui a vraiment l'air d'une femme, dit-il, les hanches larges, un cul et des nichons. Et je me suis dit, zut, je me suis trompé de livre, je suis chez Philippe Djian. Eh bien non, j'étais chez l'Ecclésio. Et donc je cégrai à Jean-Marie l'Ecclésio de s'être lâché, comme on dit vulgairement, pour achever ces deux histoires que je reconnais, j'ai fini par lire avec un certain plaisir.
J'ai bien compris, c'est un bon livre de l'Ecclésio, malgré l'Ecclésio. Hein,
bon livre de l'Ecclésio, malgré l'Ecclésio. Ouais, exactement, bon, vous avez résumé mon propos.
Mais on y reviendra et on approfondira cela. Nathalie Chrome, votre introduction tout à l'heure laissait entendre que pour vous, l'Ecclésio est ici au sommet, donc vous allez pouvoir poursuivre.
Oui, je pense qu'il est au sommet de quelque chose, il est au sommet de... Non, mais de quelque chose qui a trait avec son art et sa littérature. Alors, moi, c'est amusant parce que je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Étienne, tout en préférant, moi, la première novella à la seconde. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que effectivement avec Kundera, on est dans des sommets de sophistication, d'ironie. C'est vrai que avec l'Ecclésio, on est un peu à l'inverse, dans quelque chose qui, des narrations qui effectivement tendent vraiment vers le conte, et pas vers la fable, mais vraiment vers le conte. Et où l'ironie et la distance sont totalement absentes. Après, moi, je trouve que... j'adore pas toujours l'Ecclésio. J'ai un rapport un peu conflictuel avec l'œuvre de l'Ecclésio. Il y a des livres que je trouve vraiment magnifiques dans son œuvre. D'autres que je trouve, enfin voilà, qui me tombe un peu des mains et que je trouve d'une grande, d'une candeur que longtemps je n'ai pas supportée. Là, je retrouve cette candeur, encore qu'il y a une vraie noirceur aussi dans cet univers. Et je trouve que ça fonctionne très très bien, quoi. Je ne sais pas effectivement si c'est une posture de l'écrivain, du grand écrivain. Moi, je trouve que c'est aussi ce qu'on retrouve dans, quand on rencontre le Clésio, qu'on s'entretient avec lui, enfin, qu'on l'interview, ou ce qu'on retrouvait dans un très beau documentaire que lui avait consacré Antoine de Godemar, je crois que c'est dans la série Empreinte. Le Clésio disait des choses qui pouvaient sembler des choses extrêmement banales. Il les disait avec cette façon d'être, cette candeur, cette absence d'ironie, cette absence totale de cynisme qui donne une grâce quand même, moi je trouve, à ses propos et qui donne une grâce parfois à sa littérature, pas toujours, mais parfois à sa littérature. Et je trouve que la première des nouvelles, encore une fois la deuxième, alors moi j'aime moins ce côté presque trop réaliste et trop contemporain. Je trouve que la première, elle a effectivement la dimension un peu d'un mythe ou d'un conte. Elle est comme ça un retour à des éléments premiers, des motifs premiers, un homme, un enfant, une enfant, une île, beaucoup d'obscurité, le mouvement de la mer. Je trouve qu'on est dans des, oui, un peu dans de l'élémentaire, quasiment dans de la mythologie. Et je trouve qu'il arrive avec ça à faire une histoire qui a une vraie grâce, oui, poétique. Poétique, mythologique. Ouais.
Alors, pour me glisser un instant, on a compris que j'avais plutôt des choses désagréables à dire sur ce livre. Moi, je suis comme vous, j'ai un rapport assez contrasté avec le livre de Le Clésio. Certains, rares, m'ont beaucoup ému, touché, et beaucoup d'autres, comme celui-ci, me navrent assez, tant sur le fond que sur la forme. Parce que, alors, si on distingue les deux histoires, la première, ça pour faire plaisir à Étienne de Montetti, c'est vraiment une sorte de sous-duras, comme ça, d'une phrase qui se regarde écrire, qui se complète dans les formules, qui se voudrait pour moi, effectivement, poétique, mais sans jamais l'être, voire philosophique, voire cherchant une forme de transcendance, mais je perçois surtout une grande platitude pour moi dans l'accumulation, comme ça, l'égrenage de clichés. Pour le fond, oui, je trouve ça presque pire, parce que ça me semble nier, moi je dirais plutôt que, je ne sais plus quel mot vous avez employé à l'instant, Nathalie Chrome, la candeur.
Candeur, ouais.
Voilà, moi je dis nier.
C'est beaucoup plus joli que la niaiserie.
Non, mais c'est bien pour ça que j'emploie ce mot plutôt. Une femme sans identité, le deuxième texte, ça renverrait plutôt à du sous Marine Diaye, y compris dans le titre qui évoque bien lointainement les trois femmes puissantes, sauf que là, évidemment, le Clésio qui s'empare comme ça d'une parole féminine, fait de ce personnage un personnage de femme ballottée, de femme, alors pour le coup, qui n'a évidemment pas de puissance. Et donc, c'est vrai que ça, pour moi, dans l'une comme dans l'autre des histoires, ça ressasse quand même les pires clichés sur les sujets qu'il voudrait traiter, enfin, que je vois juste des prétextes à faire des belles phrases. Pour une lecture à l'aveugle, vraiment, moi, j'aurais pensé que c'était un très jeune homme de 16-17 ans, qui manie bien la langue, mais qui vraiment manque singulièrement de vécu. Pardon, voilà, je m'arrête là, ça suffit.
Oui, je me suis posé la question, notamment sur le deuxième texte. Est-ce que ce n'était pas un texte de jeunesse? Parce qu'il y a énormément d'un livre sous influence, avec qui cherche un peu son style, qui cherche un peu son ton. À un moment donné, mais c'était peut-être parce qu'il y avait des énumérations de noms de Paris, mais je me suis dit, tiens, c'est drôle, il s'invite chez Modiano, par exemple, pendant quelques lignes.
Oui.
Bon, et puis tout d'un coup, comme c'est une toute jeune femme, effectivement très violente, tout d'un coup le vocabulaire se verdit, si j'ose dire, mais le Clésio n'est pas très à l'aise avec ce registre. Donc une prose qui se cherche beaucoup, et donc il ne me semble pas que ce soit justement le livre de la maturité du tout. C'est autre chose, avec des réussites vraiment inégales dans ces deux textes.
Non, mais moi, je là, encore une fois, la seconde m'a pas...
Vous ne la défendez pas, ici.
Non, voilà, je la défends pas. J'ai déjà assez de mal à défendre
Tempête.
La première.
Ah bon.
Donc,
mais pas sur une femme sans identité.
Ça, l'hostilité. Non, je trouve que les écrivains... ils tendent aussi très souvent... en avançant vers une forme de simplicité, de... Donc, moi, je trouve pas ça du tout durassien. Je trouve que la phrase...
Une très mauvaise imitation. Je trouve ça pompeux,
plutôt,
moi.
Je
ne
trouve pas ça imité. Je n'ai pas du tout pensé, à Duras. Non, je pense qu'effectivement, il est dans du cliché, mais... parce qu'il est dans du conte, donc il est dans des sortes de situations comme ça très élémentaires, dans des personnages sans psychologie, donc forcément dans du cliché. Enfin, je veux dire, le conte est quand même, c'est un peu l'essence du conte que de mettre en scène des archétypes et des clichés,
bien,
quoi. Donc forcément, il est dans le cliché. Je trouve qu'il
le dépasse pas, qu'il le transcende pas du tout, justement, qu'il reste au ras du cliché.
C'est Chevillard qui, dans Le Monde, Éric Chevillard, chronique du Monde, a dit que la lecture de L'Ecclésio ne dépendait pas de lui, mais dépendait de l'état dans lequel on était quand on le lisait.
Ah voilà, je voulais absolument le citer.
Voilà. Je pense qu'il a raison.
Voilà.
Peut-être que si je l'avais lu un autre jour, j'aurais pas aimé ce texte.
Chevillard écrit, qui a eu le prix Vialatte, et on le salue pour cela aussi.
C'est un beau. Très bon lecteur.
C'est une prose envoûtante, agaçante aussi parfois, mais cela dépend plutôt du lecteur. Comment il est luné ? C'est une littérature sans humour, sans réflexivité, qui croit en ses prodiges, une littérature d'enfant pour enfant, qu'il faut accepter comme telle pour en jouir. Bon, bah, effectivement, j'étais mieux luné, peut-être effectivement j'aurais pu.
On peut dire ça de tous les livres quand même.
Ah bon ?
Une lecture, c'est toujours un écrivain.
Non, mais littérature d'enfant pour enfant, c'est pas le cas de tous les livres.
Non, j'entends, ça dépend de l'état du lecteur.
Non, mais bien sûr.
Cette notion-là.
Non, je pense que c'est vraiment la particularité
de l'Ecclésio
pour moi. Pour toutes les œuvres,
oui. Mais quand on est à ce niveau, pour moi, de niaiserie, pour un adélichrome de candeur, il faut effectivement être plutôt bien luné pour
revoir la candeur plutôt que la niaiserie. Non, je pense qu'il y a vraiment des œuvres qui sont objectivement médiocres. Enfin, il y a des œuvres qui sont objectivement pas des œuvres. C'est la majorité des livres qu'on reçoit, c'est vraiment objectivement.
Oui, mais ce jour-là, vous êtes de bonne humeur et vous passez un bon moment qui est celui du divertissement.
Mais même pour ça, il faut des qualités qui manquent à beaucoup de livres.
Ce sont une qualité de bonne humeur qui dépend beaucoup du lecteur. Si ce jour-là, vous êtes plus exigeant ou d'humeur plus ronchonne, vous serez sévère.
Il faut mieux avoir lu un bon Kundera avant, mais c'est ce qui m'est arrivé, ça ne m'a pas fait apprécier davantage l'Ecclésio. Non, ça ne marche pas, en fait, je retire ce que je viens de dire.
Vous n'avez plus du tout accès à votre âme d'enfant.
Oh si,
voilà ce qui arrive.
Ça ne passe pas du tout par l'Ecclésio, qui est pour moi un vieillard depuis très longtemps. Ça suffit comme ça, vous avez le droit absolument d'aimer, vous êtes là pour en dire le bien que vous en pensez, Nathalie Chrome, il n'y a aucune hostilité, il y a des points de vue qui s'exprime, et c'est comme ça tous les soirs dans cette émission. Et tous les points de vue, ont le droit absolu de s'exprimer. Tempête de Jean-Marie Gustave Ecclésio, publié aux éditions Gallimard. Et avant de conclure cette émission par un coup de fil, passé à Mathias Hénard, le jeu de la dispute, Antoine Guillaume, nous commençons par donner chaque soir la réponse à la question posée la veille. En l'occurrence, elle permettait de gagner des entrées pour une exposition, Les Mondes de Gottlieb, au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. La question était, Antoine...
Gottlieb a reçu le prix du meilleur album à Angoulême en 1976. Pour quelle bande dessinée ?
La réponse était Guéluron. Ce qui va bien, l'Ecclésio. Il a gagné ce soir des entrées pour le film Métabolisme, ou Quand le soir tombe sur Bucarest de Corneliu Porumboiu, qui sort mercredi prochain. La question, Antoine.
À quel prix a obtenu le premier long métrage de Corneliu Porumboiu, 12h08 à l'est de Bucarest, à Cannes en 2006. Il était présenté à la quinzaine des réalisateurs.
Si vous avez la bonne réponse, vous nous l'envoyez avec vos coordonnées postales à auditeurfranceculture@radiofrance.com. Comme tout de suite, c'est l'heure du coup de fil de la dispute.
Hello.
Hello.
Hello. Hello.
Et ce soir, j'appelle Mathias Hénard, qui fait partie des auteurs invités du 27e Festival de littérature et de journalisme de Metz, qui est également conseiller littéraire au sein de l'équipe du festival. Alors, vous serez donc amené ce week-end à modérer un certain nombre de rencontres. En quoi consiste d'ailleurs, commençons par là, ce rôle de conseiller littéraire dans ce festival, Mathias Hénard ?
Disons que ça consiste à participer à l'organisation, c'est-à-dire un peu au choix des thématiques, des différentes tables rondes, des invités, de voir comment regrouper tout cela et donner un peu de sens au contenu du festival.
Le mot d'ordre du festival, c'est de lire et de raconter le monde. Alors cette année, vous le placez sous le signe de l'Europe. L'Europe, évidemment, avec toutes ces zones de turbulence. L'Europe, je ne vais pas citer De Gaulle, mais de l'Atlantique à l'Oural, ça concerne aussi l'Ukraine et la Russie. Est-ce que cette période, voilà, qui est une période quand même de tensions lourdes en Europe, est-ce qu'elle va trouver des échos dans la programmation de ce festival ?
Oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, on va avoir toute une table ronde consacrée à l'Ukraine, par exemple, avec entre autres Andrei Kourkov, qui nous fait l'honneur de venir nous parler de son pays, et puis Bernard Guetta, qui nous fera part de ses analyses aussi géopolitiques sur la question. Et bien sûr, c'est aussi les difficultés de l'Europe, pas uniquement une célébration européenne, un peu païenne, mais aussi essayer de voir voilà, quels sont les échecs de l'Union et comment est-ce que tout ça pourrait se transformer.
Alors vous aussi, on le sait, Mathias Sénard, vos lecteurs, nombreux le savent, vous racontez le monde. Vous aussi, on se souvient de Zone, on se souvient de Rue des Voleurs, on se souvient de Tout sera oublié. Alors ça, c'est récent, c'est un tome, le premier tome d'un roman graphique avec Pierre Marques. Mais la question de Sartre qu'on pose souvent, que peut la littérature ? Qu'est-ce que vous répondez, vous, Mathias Sénard ?
Moi, je pense qu'elle peut... Elle peut tout et rien, enfin c'est un peu une réponse un peu banale, mais je pense qu'elle donne à penser d'abord, elle donne du plaisir ensuite, et puis elle peut, disons, pointer du doigt, ou pointer du mot plutôt, des choses qu'on n'a peut-être pas forcément ni envie ni la capacité de voir, et c'est toute une façon de voir le monde. Alors, bien sûr, le monde contemporain, le monde qui nous entoure, mais aussi l'imaginaire et puis notre relation avec le passé et l'histoire.
Et pour effectivement intéresser au passé les plus jeunes des lecteurs, alors on sait, je rappelle que vous aviez gagné le prix Goncourt des lycéens en 2010 pour parler alors des batailles de rois et d'éléphants. Le festival s'inscrit, le festival de littérature et de journalisme de Metz s'investit aussi beaucoup auprès des lycées, des collèges, des ateliers d'écriture. Il y aura des prix d'ailleurs pour les meilleurs travaux qui seront produits par ces ateliers. Qu'est-ce qui vous semble à vous et à l'équipe du festival pertinent en 2014, Mathias Sénard, pour mobiliser justement les plus jeunes autour de l'écriture, de la lecture ?
Je pense qu'il y a une espèce de, peut-être une contradiction, c'est-à-dire que tous les adolescents finalement lisent beaucoup. Alors ils ne lisent pas forcément les livres qu'on aurait envie qu'ils lisent, mais il n'y a qu'à voir le succès des séries de romans, des séries de vampires, les séries d'Harry Potter et autres magiciens britanniques, et pour se rendre compte que finalement les adolescents lisent beaucoup, et tout le défi est qu'ils continuent à lire à l'âge adulte, c'est-à-dire qu'il y a un passage qui se fasse de ces lectures adolescentes vers d'autres textes et une poursuite de cette activité. Et donc tout le défi est là, essayer de trouver un moyen pour que ces jeunes continuent à s'intéresser au monde de l'écrit. Et les activités comme les ateliers d'écriture, enfin, tout ce qui peut un peu renforcer ce contact avec l'écrit me semble absolument intéressant.
Je sors un instant et pour finir du cadre du festival, quand le prochain livre de Mathias Sénard ?
Pas pour tout de suite, mais vraisemblablement en 2015.
2015, c'est programmé, oui. C'est en écriture, c'est...
C'est en écriture, exactement.
Bon. Bon, il faut le temps pour cela, effectivement, et le temps aussi de faire pas mal d'autres choses, hein, parce que vous êtes toujours très actif ici et là. Mathias Sénard, en tout cas, merci de nous avoir éclairé sur ce festival littérature et journalisme qui a lieu à Metz du 10 au 13 avril. Merci Mathias Sénard.
Merci à vous.
Au revoir.
Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Nathalie Chrome, Étienne de Montetti et Antoine Guillaud, d'y avoir pris part avec moi. La dispute est possible grâce à Seam Boutata, Florence Dolly, Mila Dos Santos, Daniel Finot, Antoine Guillaud et Laurence Millet. La prise de son assurée ce soir par Jean-Richard Dufour, la réalisation signée Daniel Finot. On se retrouve lundi soir à 21h pour une dispute consacrée au spectacle vivant, en compagnie de Marie-Josée Sirache et René Solis. À notre programme, le leg de Marivaux, mise en scène de Marion Bierry au théâtre de Poche Montparnasse, et puis Une année sans été de Catherine Anne, mise en scène de Joël Pommerat au théâtre de l'Odéon. Les choix de l'invité Zabou Bretman, la revue de presse Antoine Guillaud, un coup de fil passé à Jérôme Bell, le jeu de la dispute, tout ça c'est pour lundi. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture avec dans quelques instants le journal de la rédaction.